Bonjour, Françoise Hacoun, le 2 mai 2020. Donc pour notre newsletter audio de la section clinique, je me propose de vous lire quelques lignes d'un livre d'un photographe de Slovénie, Evgen Bavkar, photographe aveugle, qui a écrit cet ouvrage magnifique qui s'appelle « Le voyeur absolu » au Seuil, en 1992. Je vais vous lire quelques lignes de son chapitre 1, itinéraire. La cécité a transformé ma vie de manière parfois insoupçonnée et sous des aspects que le temps seul peut révéler. Ainsi, je ne puis plus courir comme naguère. Je l'aurais presque oublié si des enfants ne m'avaient demandé un jour pourquoi je marchais si lentement. Ma vie est moins agitée, plus immobile. J'observe le monde en l'écoutant et en tournant davantage la tête que le corps. Je vais moins vers les choses. Je me déplace moins et dans des cercles plus restreints. Oui, l'espace s'est rétréci et je dois le toucher pour le connaître ou le repérer à son bruit. Cela est gênant. Surtout quand je songe au repos du corps et au plaisir, alors du regard qui se porte au loin. La loi de l'espèce me régit à présent, même si elle n'est pas absolue. Je marche dans la ville, sur les chemins, je peux monter à cheval, nager ou skier, mais au prix de certains préparatifs, de quelques arrangements et d'un peu de temps. Je vis donc un peu en retard sur les autres, ce qui me donne toujours la sensation d'être pressé. Il en est de même pour mes connaissances. L'écoute d'un livre enregistré demande plus de temps que sa lecture, et j'ai la nostalgie d'une façon de lire plus immédiate que le déroulement intermédiaire et continu de la bande. Chez moi, il y a un ordre militaire. J'admire toujours la variété du logement de mes amis. Il me faut appréhender les lieux par le détail, et le fait d'avoir les yeux au bout des doigts n'est pas toujours commode. Je peux chercher longtemps un objet que quelqu'un a déplacé. Quand je fais la cuisine et que je perds une vis de la cocotte minute, que je cherche ensuite pendant des heures, je pense aux chercheurs d'or pour qui la ténacité ne m'abandonne pas. C'est une autre forme de défi, peut-être aussi le prix de l'indépendance et de la liberté. En réalité, je ne puis me passer des autres, mais qui pourrait le faire ? Et je sais que l'isolement me menace davantage. La présence de mes amis, c'est aussi une liberté élargie. Lorsque je discernais encore quelques bribes de lumière et de couleur, j'étais heureux parce que je voyais encore. Je garde le souvenir très vif de ces moments d'adieu au monde visible. Mais la monochromie a envahi mon existence. Et je dois faire un effort pour conserver la palette des nuances, pour que le monde échappe à la monotonie et à la transparence. Je colore les objets et les personnes que j'appréhende. Je connais une femme dont la voix est si bleue qu'elle réussit à mettre de l'azur sur un jour que je sais gris d'automne. J'ai rencontré un peintre qui avait une voix rouge foncé et le hasard a voulu qu'il aimât cette couleur, ce qui m'a fait un plaisir immense. Je devine le soleil par l'effet thermique, mais je peux me tromper. Ainsi, un jour, chez un ami dont je connaissais pas bien l'appartement, je savais l'emplacement de la fenêtre par le bruit de la rue et j'ai dit: quel soleil il y a aujourd'hui, ignorant que c'était le radiateur qui répandait sa chaleur. Nous avons ri tous les deux. Au début de ma cécité, Lorsque je la prenais trop au sérieux, je portais des lunettes très foncées pour accentuer ce que j'étais. À présent, j'utilise des lunettes plus claires pour avoir l'air d'un intellectuel. Et puis, la lumière me vient d'ailleurs, par le verbe et par la musique. Il y a aussi des gens qui portent en eux beaucoup de clarté, ce qui les rend presque reconnaissables. Je me souviens d'un guitariste qui me chanta une bossa nova en portugais, dont je comprenais à peine les paroles, mais les sons se multipliaient en lucioles qui se répondaient sur elle et sur ma guitare. C'était si lumineux que j'eus envie de les peindre. En réalité, sa musique ne suscita en moi que des images cueillies jadis dans les prés de mon village slovène. Quand je haïssais un peu la cécité, ma complice, j'aimais jouer à voir. Un jour, dans l'autocar qui traversait ma ville natale, un paysan s'est assis à côté de moi. Il s'est mis à commenter l'état des champs, la récolte attendue. Et j'ai risqué une réponse. Le maïs n'avait pas encore été trop endommagé par le vent et il pourrait encore pousser. Il a continué à parler et j'ai dû poursuivre le rôle. Malheureusement, il allait plus loin que moi et, au moment de descendre, j'ai dû reprendre ma canne, soigneusement dissimulée jusque-là. Tout était fini. Il était choqué et quelques voyageurs ricanaient. Il y a un autre jour qui est encore plus risqué. Le téléphone, qui donne l'apparence d'une égalité avec les voyants, m'incita un jour à faire la cour à une fille sans lui avoir dit la vérité. Par peur d'un échec, je prolongeai nos conversations jusqu'au jour où elle voulut me rencontrer. Nous nous donnâmes rendez-vous dans un café muni d'une description réciproque. Pour plus de vraisemblance, je pris à la main un journal et, assis à ma table, fit semblant de le lire. Puis, dans le bruit des jukebox, je reconnus la voix au téléphone qui me demandait pourquoi je tenais le journal à l'envers. Et je me dis qu'il me faudrait désormais inventer des jeux moins dangereux et plus subtils. En général, il n'y a rien de spontané dans ma vie. Je vais toujours dans les mêmes endroits, aussi précis que des lieux géométriques, alors que j'ai souvent envie de me perdre dans une forêt dont je ne connaîtrai pas les allées. J'aurai une belle illusion de liberté. En me promenant à Paris, j'en reviens toujours à une station de métro connue et le charme s'en va. La nature, elle, n'est plus la même qu'avant. Elle me semble un peu disparue, engloutie dans les brouillards de la perception médiate. Les lieux où je promenais mon regard avec tant d'ardente aspiration reviennent après un long travail de remémoration. Les saisons, elles aussi, ont changé, sauf les odeurs qui les accompagnent. Elles me sont devenues plus violentes. Revanche, sans doute, sur l'absence des couleurs. Dans ma vallée natale, j'oublie souvent les détails, les collines, l'aspect d'un village, l'emplacement des arbres, et je dois reconstruire des maisons, replanter des arbres, aller toucher un arbre pour constater qu'il est toujours là et pour poser ensuite les oiseaux sur ses branches, la brise dans ses feuilles. Quand le vent souffle, les images sont moins précises. Mais quelques bruissements d'arbustes suffisent à faire disparaître le paysage. Parfois, ce sont des chemins dans les champs que je dois repeupler avec les gens que j'ai vus. Et tout le reste ressurgit alors. Il en va différemment des pays que je n'ai jamais vus. il demeure très abstrait, indifférent. À part l'Adriatique, que je ne sais par quel miracle je vois bleu alors que je ne l'ai jamais aperçu. Peut-être le plaisir de la nage provoque-t-il cela, et l'odeur de cette mer. À Paris, selon qu'on se trouve dans un quartier riche ou pauvre, les parfums des passants diffèrent. C'est ici affaire de griffes dont j'ai quelques connaissances. Et puis, il y a trop de confusion dans les odeurs d'une ville pour en jouir vraiment. Une des absences les plus permanentes dans ma vie est sans doute celle du ciel, qui appartient aux images les plus effacées. Les étoiles, par exemple, vers lesquelles les chemins de la mémoire est vraiment très escarpé. C'est par un léger défi que je les photographie à présent. Lorsque j'ai montré ces vues à quelqu'un, il s'est exclamé qu'il viendrait dans mon pays à cause de tant d'étoiles filantes. Il avait oublié que la terre tourne, faisant du trajet des astres de petits traits lumineux. Je déplorerais amèrement ces absences cosmiques s'il n'y avait pas l'art. Et je ne sais pourquoi j'établis ce lien qui n'a a priori de sens, sinon justement dans la privation. Faute de maquettes, la peinture, le cinéma, l'architecture me sont difficilement accessibles. Reste la musique, pour laquelle j'ai un attrait ambigu. Mon amour pour elle est sans limite, mais je puis aussi la détester lorsque je pense que l'on a voulu la faire passer pour le seul bonheur des aveugles. Alors, quelle était, en réalité, la seule possibilité d'existence sociale ? Et donc, une simple promesse de bonheur. Merci, à bientôt.